Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nous sommes le 8 novembre 1997, le parc est plein pour ce Paris Saint-Germain-Marseille, qui est un match au sommet, entre le Paris Saint-Germain, qui est leader de la Division 1, comme on l'appelle à l'époque, et puis l'Olympique de Marseille, qui est quatrième, et quatrième à 3 points simplement. Avec moi, Stéphane Guy, Geoffroy Garretier et Eric Rabessandratana. Stéphane Guy, en 97, vous ameniez les cafés à Canal, hein, c'est ça? Vous étiez stagiaire?
J'étais pas encore votre serviteur, mais bientôt.
Geoffroy Garretier était déjà un brillant journaliste au Journal du Dimanche.
Toujours énorme salaire. Énorme salaire du JDD.
Et Eric Rabessandratana était au Paris Saint-Germain après avoir débuté sa carrière à Nancy. Paris Saint-Germain, depuis combien de temps, Eric?
Je venais juste d'arriver.
Vous veniez d'arriver.
Et j'étais déjà coupable.
Première saison et ça va être l'un des protagonistes importants de ce match, puisque ce match est resté pour tout le monde le match du vrai faux penalty de Ravanelli. Et on va essayer de 22 ans après de percer ce mystère.
Il y avait pénalty ou pas ?
Eh bien, figurez-vous qu'on va, j'espère qu'on aura une réponse à la fin de ce podcast.
Je crois que Charles Biétry est toujours en train de regarder les bandes du match, d'après ce qu'on m'a dit.
Eh bien, vous allez voir qu'il va nous en parler encore. Ça fait couler beaucoup d'encre. On va en parler, mais il n'y a pas que ça dans ce match, bien sûr. Tiens, on va écouter Laurent Fournier. Je vais quand même, avant ça, vous donner les compositions d'équipe pour vous dire quand même que Marseille, Robert-Louis Dreyfus avait décidé de donner de gros moyens à Roland Courbis. Roland Courbis, c'était donc l'entraîneur, pour faire une belle équipe. Et effectivement, elle avait de la gueule, cette équipe de Marseille. Il y avait Kopke dans les buts, Galas, Domoro, Laurent Blanc, Fabrizio Ravanelli, qui est une star, hein, qui a gagné la Ligue des Champions avec la Juve, Claude Makélélé, Xavier Gravelaine. Donc voilà, une grosse équipe de l'OM. Côté Paris Saint-Germain, je vous donne la compo du PSG ce jour-là, 8 novembre 1997. Christophe Revault dans les buts, Algerino, Ngoti, Rabessandratana donc, Francis Lesser, Vincent Guérin, Édouard Cissé, Laurent Fournier, Rai, Gava, Maurice. Voilà la composition de cette équipe parisienne. Et je vous propose d'écouter Laurent Fournier. On est juste avant le coup d'envoi du match.
Laurent Fournier, des PSG Marseille, vous en avez joué des ribambelles. C'est toujours aussi excitant pour vous?
Ouais, c'est vrai que c'est un match particulier parce que les supporters sont un peu rivaux. Mais je crois qu'il faut que ça reste du football. Je pense que c'est un match et c'est 3 points. On va essayer de prendre 3 points ce soir pour garder notre place de leader.
On y pense à quel moment dans la semaine? À quel moment ça prend les tripes à PSG Marseille?
Là, on n'a pas eu le temps d'y penser parce qu'on a eu le Bayern en Coupe d'Europe. Mais je pense que hier, déjà ouvert, la pression commençait à monter.
Laurent Fournier au micro de Vincent Alix. Le Bayern, ça va être le fiasco de Christophe Revault, hein, au match retour. Christophe Revault qui va perdre un petit peu sa place. Qui vient
mais ça, il est coupable sur 3 des 5 buts du Bayern.
Ça, c'est le PSG de l'époque qui est un PSG qui sort de 2 finales de Coupe d'Europe, l'une gagnée en Coupe des Coupes et l'une perdue face au FC Barcelone 5 mois plus tôt.
Quoi. Exactement. C'était l'objectif, Eric Rabessandratana, le titre. Hein, il fallait que Paris aille chercher ce titre.
Oui, il fallait absolument gagner le titre. Et puis, on était premier sur le jour de ce PSG-Marseille. On était premier, donc Marseille était quatrième.
C'est une équipe, oui, le PSG ça. À l'époque, Eric, qui dans les coupes est très performante, notamment en Coupe d'Europe. Il y a eu 5 demi-finales européennes consécutives, ouais. Ad minima pour le Paris Saint-Germain, qui en revanche en championnat, malgré le fait d'avoir à l'époque le budget le plus important de France et l'effectif numéro 1 en France, n'a été champion dans l'ère Canal qu'une seule fois, en 1994. Donc le titre, c'est quelque chose qui obsède
Paris. Ouais, c'est un peu le regret. Paris. C'est vrai que c'est un peu le regret du Paris Saint-Germain avec les performances en Coupe d'Europe. On s'attendait à ce qu'il soit beaucoup plus souvent champion de France et ça n'a pas été le cas. Donc,
pour la
troisième saison consécutive, je crois que Paris doit être premier à la trêve, ou pas loin, et s'écroule littéralement sur la phase retour. C'était une constante du PSG à l'époque.
Et on rappelle que c'est l'année qui précède la Coupe du Monde, et que le champion de France, ça va être le Racing Club de Lens, hein, qui va être champion après un mano à mano
devant
avec
Metz.
Le FC Metz, effectivement, Lens-Metz, qui vont se tirer la bourre très largement, finalement. Marseille va terminer quatrième.
Champion de France à la différence de but, le Racing Club de Lens.
Exactement, et Paris très loin. Hein. Paris terminera cette saison en huitième
position. Mais en gagnant les deux coupes, quand même.
Alors, parlons un petit peu du match et relativement rapidement, parce que je voudrais qu'on s'étende sur le fameux pénalty.
Le moment.
Puisqu'on a la chance d'avoir un des protagonistes, celui qui a touché Ravanelli ou qui ne l'a pas touché. Il va nous dire 22 ans après quelle est sa vérité. Gros pépin quand même pour le Paris Saint-Germain dès la 8e minute avec la blessure de Florian Maurice, qui est l'attaquant star de ce PSG, qui va se blesser.
Oula, oh là là, la cheville. Oh, bon sang, bonsoir. Oh, ça, c'est terrible. Vous avez vu comment la... Oh là là là, presque un angle droit. Oh, c'est terrible.
Alors, Grégoire, oui, c'est Jérôme Leroy qui va rentrer.
C'est définitif. Donc, sortie de Florian Maurice. Ça change évidemment beaucoup de choses dans le potentiel offensif du Paris Saint-Germain. On sait que Jérôme Leroy est en forme. Il l'a prouvé face au Bayern mercredi soir en inscrivant un but.
Bon sang de bonsoir, comme le dit Olivier Rouillet qui commente avec Grégoire Margoton et Thierry Gilardi qui est sur la pelouse. La sortie de Maurice, c'est la blessure qui va certainement lui coûter la Coupe du Monde.
Il ne faut pas oublier que Aimé Jacquet, à l'époque, il le dira plus tard, mais avait décidé dans son plan, c'était de faire de Florian Maurice l'avant-centre des Bleus pour la Coupe du Monde. C'était lui qui le voyait gros comme une maison pour accompagner les Bleus. Et il est arrivé de Lyon l'été précédent avec Franck Gava. Justement, pour aller se donner un peu plus de temps de jeu dans un club encore plus huppé. Et en fait, le rêve va vite tourner au cauchemar. C'est Florian Maurice, malheureusement, ne va jamais retrouver son niveau physique cette saison et ne fera pas la Coupe du Monde. Et
à cause de cette blessure-là.
C'est parti de cette blessure-là.
Il va ensuite partir à l'Olympique de Marseille. Les Marseillais qui vont ouvrir le score rapidement, dès la 12e minute dans cette rencontre, grâce à Xavier Gravelaine. Ancien Parisien, je crois qu'il avait joué à Paris, c'était avant, hein. On ne sait plus dans quel ordre.
Il a joué deux fois à Paris.
Voilà, donc avant et après.
Mais comme d'hab, l'ancien Parisien qui marque au Parc des Princes.
On est à la 12e minute.
Centre de Ravanelli, Camara, pas de hors-jeu, et de la reprise, ouverture du score de Xavier Gravelaine, l'ancien Parisien qui ouvre le score pour l'Olympique de Marseille après 13 minutes de jeu en première période. L'OM mène à 0.
Vous étiez où là, Eric? À la ramasse?
C'est vrai, j'étais à la ramasse. C'est bien parce que pour aujourd'hui, pour ce jour, j'ai eu le lien. J'ai donc regardé le match parce que j'ai jamais regardé en entier. Hein. C'est la première fois que je regarde en entier. Première fois que je regarde en entier. J'avais que regardé l'action du penalty. Donc j'ai revu tout le match. Et effectivement, alors je pars un peu à la ramasse parce qu'en fait je monte au pressing sur Camara qui joue une touche de balle et qui joue super bien le coup. Et après Gravelaine, il la met parfaitement quand même parce qu'elle est pile poil au ras du poteau, donc au chou aussi sur le but. Ouais.
Alors on a évoqué d'autres Paris Saint-Germain, Marseille sans foot, sans beaucoup de buts, mais ce match-là il va bien partir hein, puisque à la demi-heure de jeu, les Parisiens vont égaliser grâce à Jérôme Leroy qui vient d'entrer justement à la place de Maurice. On écoute cette égalisation parisienne.
Un petit peu moins de ballon que d'habitude passe pour l'instant par Claude Makélélé. Tête de Raï, reprise de Jérôme Leroy. L'égalisation du Paris Saint-Germain après 33 minutes de jeu en première période. Un partout, c'est le premier but de la carrière de Jérôme Leroy en championnat. Égalisation, ce match est parti sur des bases magnifiques.
Ah oui, encore quelle belle action de but. Regardez ce long ballon et cette remise parfaite de Raï. Et qui est là? Eh bien Jérôme Leroy qui lui se pose pas de questions. Petite bicyclette à la Luis Fernandez. Et là, il trompe Kopke.
La bicyclette à la Luis Fernandez, pour qu'on comprenne, c'est la bicyclette de face.
Ce qui est assez extraordinaire quand on entend déjà cet extrait-là, c'est que c'est un but extraordinaire.
Il est magnifique.
C'est un but extraordinaire qui devrait déchaîner l'enthousiasme des commentateurs. La difficulté pour un journaliste de Canal à l'époque, quel qu'il soit, hein, quel que soit son nom, de commenter ce match entre le Paris Saint-Germain et Marseille.
Partie.
Et notamment de commenter un but du PSG, propriété de Canal+, face à l'Olympique de Marseille. On le sent, mais quand on entend, quand on n'a que le son, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est assez exceptionnel de se rendre compte de ça.
Exactement. C'est vrai que on va en reparler, bien sûr, dans la polémique sur le pénalty. C'est quand même un Paris Saint-Germain à Marseille, donc il faut un petit peu d'embrouille, parce que sinon, ce sera pas un PSG Marseille des années 90. Et cette embrouille, elle va arriver à la 40e minute entre Pierre Ducrot et Fabrizio Ravanelli. Thierry Gilardi, au commentaire.
Ravanelli devancé par Pierre Ducrot. Il va quand même récupérer ce ballon, le renard argenté, et lancer l'offensive marseillaise avec Camara. Oh, ça va être entre Ravanelli et Ducrot.
Oh là là. Mais non, messieurs, restons calmes. Monsieur l'arbitre est là, il a sifflé, il va donner un carton jaune. Il n'y a pas de raison de s'énerver, ça sert à rien du tout. Allons.
Ouais, mais le renard argenté, c'est effectivement un vieux renard. Il a vu qu'il y avait un jeune face à lui. Il est allé lui faire le coup des yeux dans les yeux.
Voilà, avec Olivier Rouillet, Grégoire Margoton, bien sûr. C'était Ravanelli, un joueur déjà très coté. Hein. Il était là un petit peu se perdre à Middlesbrough, ouais. et se refaire la cerise à Marseille, mais il avait gagné la Ligue des Champions avec la Juve. C'était une star, hein, Ravanelli.
Ouais, c'était vraiment un recrutement incroyable pour le club de Marseille. Et on attendait à ce qu'il fasse, une belle saison. Il a été, je pense, décisif pour Marseille quand même, dans ce qu'il a apporté sur la saison.
48 millions de francs à l'époque. 48 millions de francs de l'époque, c'est une sacrée somme.
C'est beaucoup, parce que
ça a l'air de 500
000 francs. On ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup. Ouais.
Vous gagnez combien à l'époque, vous avez dit ?
Je ne sais plus.
Vous vous en souvenez ?
Non.
Il gagnait 500 000 francs par mois à l'Olympique de Marseille. C'est un salaire colossal. Il venait de Middlesbrough.
Je ne gagnais pas ça, déjà, c'est sûr.
Club anglais qui venait de faire deux finales de Coupe nationale en Angleterre. Il avait marqué 31 buts avec Middlesbrough, où il a vécu une sorte pas de cauchemar personnel, parce qu'il a marqué beaucoup de buts, mais en tout cas, bon. Il a eu beaucoup de mal à s'acclimater, voilà, au nord de
Middlesbrough,
alors qu'il avait été dans son club de cœur, la Juventus de Turin, une grande star, en marquant en finale des champions de la seule grande victoire de la Juve, contre l'Ajax. Ouais.
C'était un joueur qui était très efficace, mais qui était aussi détesté en Italie, il faut quand même le savoir. C'était sur tous les terrains italiens, il se faisait insulter, il y avait des chants inventés en l'honneur de Ravanelli sur l'art des lampions, systématiquement. Donc ce côté clivant, en fait, on va le retrouver dans ce match.
Et oui, parce qu'on parle, mais un partout, et puis le match continue. Et on en arrive à cette fameuse 63e minute. Ballon sur le côté gauche du terrain. Fabrizio Ravanelli va récupérer un ballon, faire un petit grigué, passer, se retrouver au duel avec notre invité aujourd'hui, Eric Rabessandratana. Et là...
Mais là, il accélère encore une fois. Fabrizio Ravanelli n'aura pas beaucoup de soutien. Donc il conserve ce ballon face au pressing de Rabé. Ah, il est passé.
Ouais.
Il peut centrer en retrait, il y a Camara.
Pénalty.
Dans la surface de réparation. Pénalty.
Ah ouais.
Le petit point blanc indiqué par M. Puyalt. Oh, il est fort pour ça, Fabrizio Ravanelli. On va revoir au ralenti ce qui s'est passé. M. Puyalt, lui, a pris sa décision. Ce sera un pénalty.
Alors, il a fait en tout cas une superbe accélération. Eh bien.
Voilà.
Vous voyez comment Ravanelli se fait... Bah, presque un croche-pied tout seul, il se frappe le mollet gauche avec la jambe droite et il est tombé. Monsieur Puyalt a pensé que c'était Rabessandratana qui avait fait un croche-pied.
C'est intéressant, parce que là on est en live, on est en direct. Il n'y a pas, le temps de
la VAR.
Il y a le commentateur, il n'y a pas la VAR, il y a la première impression du consultant, première image qu'il revoit, tac. On sent tout de suite le doute dans l'esprit de
Olivier Rouillet. Alors, à vitesse normale quand même, tout le monde voit pénalty, hein, parce que la chute de Ravanelli...
Moi, je suis dans les tribunes.
Vous êtes supérieurement intelligent, je crois.
Non, pas du tout. Mais vous savez même pas ce que je vais dire. C'est vrai que je suis... Mais en même temps, laissez-moi aller. Je suis dans la tribune de presse, et pour nous, on est persuadé qu'il y a pénalty.
75 mètres
voilà, c'est ce que je suis en train de dire.
Voilà. Mais oui, je ne vous conteste pas, Hervé. Maintenant, c'est gentil de me faire un compliment.
Dis non pour me dire la même chose.
Vous n'êtes pas obligé.
Donc, tout le monde pense qu'il y a pénalty. Quand on voit le ralenti, on a de gros doutes parce que Ravanelli se fait un auto-crochetage. Et Eric Rabessandratana, je vais vous donner la parole, bien sûr, mais on va vous écouter d'abord au coup de sifflet final. Parce que vous êtes un peu énervé, on va vous écouter. C'était il y a donc 22 ans.
Ouais, ça a déçu, je crois que l'arbitre n'a pas été à la hauteur ce soir. C'était important. Ouais, bon, c'est une grosse déception.
Comment il est ce Ravanelli, hein, c'est vraiment un poison à marquer, Eric.
Oui, il faut toujours être attentif. Bon, je pense qu'il n'a pas prouvé grand-chose ce soir, mais bon, il obtient ce pénalty qui bon, je dis rien parce que je vais être méchant.
Alors, vous n'avez rien dit sur le moment, on a compris ce que vous vouliez dire. 22 ans après, il y avait faute ou il n'y avait pas faute ? Vous êtes le seul à savoir si vous l'avez touché.
Ben non, pour moi, je persiste à dire que je ne l'ai pas touché. Alors après, pour moi, les images parlent d'elles-mêmes. Alors en fait, c'est pour ça peut-être que ça a été une grosse frustration sur le moment pour moi, parce que qu'on revoit les images en long, en large, dans tous les sens pour me dire qu'on savait pas trop s'il y avait faute, ou alors que je ne fais aucun mouvement vers Ravanelli à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je dis que réellement il n'y a pas faute. Alors après, il a bien joué le coup. Alors je vais revenir sur un parce qu'en fait, comme j'ai revu le match entier. Je trouve que l'arbitre avait été bon ce jour-là, ouais, et qu'il s'est juste trompé sur cette action.
Ah ouais.
Et c'est vrai.
C'est intéressant.
Et oui, c'est intéressant parce que au début, je me suis dit non, il a été nul forcément avec la frustration. On dit. Et j'ai regardé le match et je trouve que dans les décisions qu'il a prises, il a été plutôt bon, sauf sur la décision du penalty. Et quelque part, j'allais dire, je le pardonne parce que c'est tellement bien joué de la part de Ravanelli que voilà, il peut se faire avoir sur le coup. Ça m'énerve de le dire aujourd'hui, mais c'est vrai, il peut se faire avoir parce qu'il a très bien joué le coup.
Alors quand même, pendant longtemps, c'est vrai qu'on a tous considéré qu'il n'y avait plus de débat et que c'était un autocrochet et un pénalty inventé par Ravanelli. Et puis, depuis, dans le foot, on a souvent vu des joueurs dans cette configuration de se faire des auto-croche-pattes. Et j'ai entendu notamment Eric Carrière dire « Non, mais vous vous rendez pas compte, il suffit d'être un tout petit peu déséquilibré et on peut considérer qu'il y a faute. » Et je lis une déclaration de Jérôme Leroy, qui était votre coéquipier à l'époque sur RMC Sport, il y a quelques années, qui dit « Aujourd'hui, on a des dizaines de ralentis qui décortiquent au millième de seconde. On aurait vu que Ravanelli avait été effleuré à pleine vitesse. Cela suffit pour le déséquilibrer, se marcher dessus et tomber. » Il y avait faute. Sur l'instant, comme toute l'équipe, j'étais en colère, mais il faut être lucide, il y avait bien pénalty.
Ouais, j'ai vu sa déclaration. C'était assez hallucinant pour moi, parce que, alors que sur le coup et dans l'instant du match, il dit ça. C'est comme je l'expliquais maintenant, on peut se faire berner parce que ça le dit longtemps après. C'est pour ça, je sais. C'est pour ça que. Et je me dis que même effleuré, mais c'est pas effleuré en fait, puisque c'est lui qui fait le mouvement pour venir derrière sa jambe pour se faire un croche-patte. Donc qui m'est effleuré peut-être, mais c'est lui qui m'effleure. C'est pas moi qui viens pour l'effleurer ou le faire. Non, c'est lui qui a provoqué cette.
Mais il est devant, il est dans votre course et il se met devant.
Mais il est devant moi et justement, c'est pour ça que j'écarte les bras au départ. C'est pour ça que j'insiste sur la position. Pour bien montrer, parce que je me doutais qu'il était capable de faire ça. Donc j'écarte les bras pour bien montrer que je ne vais pas intervenir et que je vais le laisser finir son action parce qu'il y avait trop de risques pour intervenir. D'où le fait que je suis énervé à la fin du match parce que je me dis, l'arbitre s'est fait berner. Et en plus, je me suis fait berner parce que je lui montre bien et malgré tout, il siffle quand même pénalty.
Stéphane Geoffroy, est-ce qu'il y a 22 ans après un petit peu de doute, ou est-ce que vous considérez que c'est encore un pénalty, on va dire, imaginaire ?
Non, moi je pense qu'effectivement il s'est auto-crocheté, mais je pense comme Eric que pour l'arbitre c'est quasiment impossible dans l'instant de jouer cette action-là.
Mais
donc,
vous ne pensez pas que peut-être, non, même si Eric ne s'en est pas rendu compte, et il y a un tout petit truc et non.
Sincèrement, quand on revoit les images, souvent, selon les plans, il y a doute. Selon
Bien
les plans, il y a doute.
Je le comprends.
Mais aujourd'hui, on jugerait avec la VAR. Et à la VAR, le pénalty ne serait pas accordé.
Non, parce qu'il prendrait jaune.
Voilà, pour simulation, il n'y aurait pas d'éléments suffisamment forts et manifestes pour dire qu'il y a pénalty.
Alors, les commentateurs de l'époque sont un peu embêtés quand même. Ils se disent, on avait envie de savoir s'il y avait pénalty ou pas. Ils vont voir divers acteurs, pas Fabrizio Ravanelli qui ne parlait pas français à l'époque. On n'avait pas la chance d'avoir encore Paganelli polyglotte qui parlait toutes les langues. Et donc, ils vont voir Roland Courbis. Et Roland Courbis, avec Roland Courbis, on se dit toujours qu'on va avoir la vérité, bien sûr.
Comme avec la même.
Écoutons Roland Courbis.
C'est vrai que les Parisiens parlent d'arbitrage ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que ça a fait basculer vraiment la rencontre ?
Comment ça, l'arbitrage ?
Le pénalty, notamment.
Ben, ma foi, je pense qu'il y a pénalty. Donc, à partir du moment où le garçon est fauché à 18 mètres, donc c'est le règlement. On a suffisamment raté de pénalty comme ça que, bon, nous, quand on a un pénalty, on est même inquiet. Donc, non, je pense qu'il y avait pénalty, c'est ça. Hein.
Ouais. Ah, il est bon.
Il est bon, hein, il fait une petite diversion parce qu'ils en avaient raté beaucoup.
Magnifique.
Effectivement.
Bon, juste pour la parenthèse quand même, le pauvre Ravanelli, il y a eu d'autres pénaltys sur lui après cette action-là.
Oui,
et forcément, il a été condamné, il n'en pouvait plus, il pouvait plus jouer. Quoi.
Pendant 6 mois, il a plus 6 ans, il a plus eu de pénalty. Ouais.
Hervé, il faut quand même aussi expliquer pourquoi ça fait tellement polémique, parce que non seulement il y a simulation sans doute de Ravanelli, mais parce que une fois de plus, Marseille vient s'imposer au Parc des Princes, une fois de plus, Marseille bat le PSG. On est dans une période des années 90 où Le PSG ne bat jamais l'OM, sauf une fois en Coupe de France quand Marseille était en D2. Et donc il y a une série de 13 classicos consécutifs en Ligue 1 où le PSG ne gagne pas. Donc ça renforce évidemment
alors
la
même,
frustration.
Alors même, si on accepte les allées tapis, mais c'est très court hein, dans la rivalité PSG-Marseille, puisque l'OM est relégué dès 93. Donc,
94. Donc,
voilà, ils reviennent là on parle de l'OM qui est revenu et qui avait à l'époque des moyens qui n'avaient rien à voir avec ceux du Paris Saint-Germain.
Est-ce qu'il y avait un complexe du Paris Saint-Germain face aux Marseillais?
Non, je pense pas qu'il y avait de complexe. Je pense que parce qu'en plus en re-regardant le match, je me dis que Marseille n'a quasiment pas d'occasion. En fait, ils ont trois occasions maximum, peut-être sur le match. On n'en a pas beaucoup plus. C'est vrai. Maintenant, on a beaucoup plus le ballon. Alors sur l'ensemble du match, on a plus le ballon. On a un peu plus de jeu que Marseille, mais à la fin, c'est Marseille qui gagne, donc c'est aussi une grosse frustration.
Il n'y a pas un petit complexe, Eric. Je dis ça parce que la saison précédente, 37e journée, Marseille était vraiment à la ramasse au classement. Ils viennent gagner 1-0 au Parc. Le match suivant, ils prennent 8-0 à Lyon. C'était vraiment une équipe qui était en difficulté. Ah ouais. Et pourtant, dès qu'ils jouaient à Paris, ils gagnaient.
Non, il y avait de la crainte, certainement, mais pas forcément de complexe. Je pense que, voilà, après, ça restait une équipe, quand même, quand on voit sur le papier, c'est quand même une belle équipe. Mais non, je pense qu'il y avait peut-être de la crainte, un peu trop, certainement. Ce qui fait qu'on n'a peut-être pas pu en profiter, au moins offensivement, en tout cas.
Et donc, Marseille va s'imposer une fois de plus, vous l'avez dit, au Parc, 2-1, parce que ce pénalty va être transformé. Par qui ? Par Laurent Blanc. Tiens, on va écouter cette transformation de Laurent Blanc.
C'est parti. Et Blanc qui marque en force dans l'axe et il permet à l'Olympique de Marseille, après 19 minutes de jeu en seconde période, de mener 2-1.
À Laurent Blanc, il y avait deux tireurs dans l'équipe de Marseille, Ravani et Blanc, mais l'un et l'autre avaient raté des pénaltys. Donc voilà, c'est Blanc qui s'était attelé à la tâche. Et en parlant, à la fin du match, les équipes de Canal vont voir Laurent Blanc pour lui demander de revenir sur ce match et ce pénalty. Écoutez Laurent Blanc.
Laurent Blanc, Roland Courbis n'a pas voulu nous en parler, mais véritablement, est-ce que l'OM peut jouer le titre cette saison, après ce match?
Non, je crois que bon...
Voilà, je crois. Déjà.
Lucide.
C'est pas gentil.
C'était pour vous amuser un petit peu.
Oui, bien, c'est réussi, Hervé, merci.
Bon. Mais en même temps, Hervé, c'est ça qu'il faut se dire. Eric est un acteur malheureux, mais ce qui nourrit la mythologie de ces affrontements-là, c'est des scènes comme celle ayant opposé Ravanelli à Rabezan Ratana, les Raras.
Oui, parce que ça fait partie des rares actions dont on parle encore 20 ans plus tard. Donc, c'est une fierté pour vous, Eric, d'être dans ce...
C'est un boulet, quand même.
Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on m'appelle tous les ans pour me demander si j'ai fait faute ou pas. Donc, c'est quand même...
Il va falloir que vous avouiez, quand même.
Ben ouais,
comment on vit avec ça? Parce que vous avez une carrière magnifique. Vous avez joué des dizaines et des centaines de matchs professionnels. Et le match dont tout le monde doit vous parler, c'est celui-là. C'est un peu comme Maxime Bossis avec son penalty manqué, alors qu'il a une carrière exceptionnelle.
Bah c'est vrai que c'est un peu casse-pied parce que c'est pas le seul match que j'ai fait et on vous rappelle sans cesse cet affrontement
on
avec Marseille.
On est toujours réduit à une action.
Ouais, c'est vrai, mais bon après voilà, c'est ça fait partie d'une carrière et je le vis mieux au fur et à mesure. C'est vrai que sur le moment c'était dur parce que en fait de revoir encore les images. Je me sentais coupable. Ouais. Mais alors, en plus de revoir les images et de ne pas voir que j'avais l'impression que les gens ne voyaient pas ce que je voyais.
Et c'est pas possible quand même. Et vos partenaires à l'époque, qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Non, j'ai jamais eu aucun problème.
Au contraire, vous
réconforter. Ouais, bien sûr. Ouais. Et j'ai jamais eu aucun problème, même avec les entraîneurs.
Il n'y a pas de colère en vous. Vous êtes très, très zen, alors que c'est un épisode on imagine douloureux.
Bah, j'ai pas de colère parce que ça ne sert à rien déjà. Et puis surtout que voilà, comme je disais, c'est bien en fait que j'ai revu ce match en entier. Pour me faire une idée sur l'arbitrage, parce que je m'étais arrêté sur l'action et du coup, ça avait un peu faussé mon jugement. Et là, je me rends compte que finalement, l'arbitre a quand même fait un bon match malgré cette action.
C'est la classe, hein, Hervé.
Cette émission aura au moins servi à ça, à permettre à Jean-Claude Puyalt d'être excusé, pardonné par Eric Rabezan Ratana. Alors, vous l'avez évoqué, Stéphane, et c'était intéressant, comme toujours, dès que vous ouvrez la bouche, les commentateurs de Canal étaient un petit peu en difficulté lorsqu'ils commentaient le Paris Saint-Germain, parce que le PSG appartenait au Paris Saint-Germain depuis quelques mois et quelques années quelques même années, quelques années et donc effectivement il pouvait être suspecté de connivence avec le Paris Saint-Germain, notamment quand c'était Marseille en face. Et donc ce penalty, et les commentaires qui disent que le penalty a été inventé, on va dire, par Ravanelli, vont créer de grosses tensions avec les abonnés de la région PACA, province Côte d'Azur, et qui est une région importante. Et la direction de Canal, à l'époque, est un petit peu embêtée parce qu'elle s'est dit on est en train de perdre des abonnés du côté de Marseille. Et donc, il va y avoir une espèce de grosse opération de réhabilitation. Et Charles Bietri, qui est le directeur des sports de l'époque, un mois après cet épisode, et à l'occasion du tirage au sort de la Coupe du Monde, et sur le plateau nulle part ailleurs, et il va démarrer une espèce de grosse opération de rétro-pédalage.
Tirage au sort qui a lieu à Marseille, Hervé.
À Marseille, exactement, décembre 97. Écoutez Charles Bietri qui revient sur cet épisode, Rabé Sandatana, Ravanelli, un mois après.
Vous vous souvenez de ce PSG Marseille qui avait fait beaucoup parler, qui avait fait beaucoup écrire aussi. Écoutez, on n'était pas très très satisfaits, et nous, on a cherché dans des kilomètres et des kilomètres d'images, dans exactement 24 kilomètres de bande, nous avons remonté pour en savoir un petit peu plus sur cette faute ou cette non-faute sur Ravanelli. Regardez le dépouillement. 65e minute, Ravanelli tente de déborder Rabé Sandratana. Le Marseillais s'écroule et c'est là que commence l'affaire. Penalty, a indiqué M. Pouyalt, l'arbitre. Premier ralenti. Bizarre, cette chute de Ravanelli. Deuxième ralenti. Peut-être une esquisse d'un accrochage, mais toujours rien de sûr. Troisième ralenti avec la loupe. Là, pas de doute. On ne voit que la fin de l'action, c'est vrai. Mais visiblement, l'Italien se croise les jambes. C'est un beau trucage. Quatrième ralenti, après avoir visionné 24 km de bande, et c'est là que va s'insinuer un doute. N'y aurait-il pas un contact entre le genou du Parisien et la cheville du Marseillais ? Cinquième ralenti, on décortique un peu plus. Visiblement, le pied droit de Ravanelli est touché par le genou du Parisien qui lui fait perdre une partie de son équilibre. Gros plan maintenant, il n'y a plus de doute. Il y a bien eu contact entre les deux hommes. Et la conclusion est...
Eh bien, la conclusion est à vous, mon cher Charles.
Je dirais que on a essayé de chercher le plus possible la vérité, qu'on a trouvé deux vérités. C'est que première vérité, je pense, et on a consulté des arbitres, que la faute de Rabé Sandratana n'est pas une faute, qu'elle n'est pas intentionnelle, et que donc il ne devait pas y avoir de pénalty, et que les Parisiens ont un petit peu raison de penser qu'ils ont eu deux points de perdu. Et la deuxième conclusion, qui est au moins aussi importante, c'est qu'effectivement Ravanelli avait été touché et déséquilibré, et que donc il n'a pas simulé. C'est juste deux vérités qu'on voulait rétablir devant Fabrizio, devant Roland et devant les abonnés de Canal qui avaient suivi ce match en direct.
Et comme ça, tout le monde est content. 24 kilomètres de bande.
C'est magnifique.
24 kilomètres de bande.
Je pensais même pas qu'on pouvait faire 24 kilomètres de bande. C'est une bonne information
24
déjà.
24 kilomètres à la rame, c'est pas facile.
C'est ça, avec une seule rame,
à mon avis.
C'est l'affaire du Watergate. Là, vous êtes dans une affaire. Hein.
C'est incroyable. Ouais, c'est ça qui est incroyable.
Vous êtes pas loin, Hervé, parce que ce penalty-là aura des conséquences géopolitique à l'échelle du football, puisqu'il y aura remplacement à la présidence du Paris Saint-Germain quelques mois plus tard de Michel Denisot par Charles Bietri, qui lui reprendra la direction des sports.
Et c'est pas lié ça.
La rivalité des personnes était à son comble à ce moment-là entre la direction des sports de Canal et la présidence du Paris Saint-Germain.
Ça fait, je pense, moi j'étais pas à Canal à l'époque, mais on le sentait bien, ça fait 5 ans que c'est très compliqué à gérer pour les gens des sports de parler du PSG. Je me souviens notamment du fameux match de 93, le Classico à Marseille, 3 jours après la victoire de l'OM à Munich, où les supporters du PSG envoient des fusées dans leur coin au Vélodrome sur la foule marseillaise. Et pour les commentaires, c'est impossible. On est dans l'impossibilité d'être objectif ou de faire son métier correctement. C'est très compliqué.
Ouais. Juste pour quand même défendre un tout petit peu Charles Bietri.
Mais on le défend justement.
Non, parce que sa théorie, elle peut s'entendre. C'est-à-dire que Ravanelli n'a pas cherché à simuler, mais il a été touché involontairement et donc il n'y avait pas faute. Non ? Eric.
Non, je suis pas du tout d'accord avec ça.
Vous ne l'avez pas touché.
Je ne l'ai pas touché. Attention, il passe sa jambe derrière, il me frôle.
Donc il y a peut-être eu un contact.
Bien sûr qu'il y a un contact.
Involontaire.
Mais c'est pas un contact et c'est pas un contact suffisant pour pouvoir le déséquilibrer. Donc Voilà, après, comme je dis, il a bien joué le coup, mais bien sûr qu'il y a un contact, puisqu'il passe, il me frôle de je sais pas si c'est pas mon genou, mais je pense que c'est le protège tibia, je sais pas. Voilà, il passe derrière sa jambe, et après, il tombe. Alors après,
ficelle est trop grosse.
Tout est tellement, là, vous vous rendez compte que quand même, on parle de là, c'est pas un contact. Quand on touche quelqu'un pour le déstabiliser ou le déséquilibrer, ça n'a rien à voir. Là, c'est pas un contact. C'est quand je vous frôle le bras, ça peut pas suffire pour vous faire tomber dans la surface. Donc c'est tout. Après, il y a aucun problème sur le fait.
Non, mais le débat, c'est penalty, pas penalty. Pas penalty. Et après, on comprend bien. Vous avez rappelé parfaitement, Hervé, le contexte. Émission en direct de Marseille avec Roland Courbis pour inviter. Vous imaginez bien que.
Il va pas dire qu'il y a pas penalty. Ça s'il dit, il n'y a pas penalty à Marseille en plus.
Et puis 24 km de bande.
Et puis 24 km de bande.
Moi, je me suis posé la question, est-ce que ce match, cette nouvelle défaite, cette frustration dans la polémique qui est la vôtre, va casser un peu la dynamique du PSG cette saison-là? Je vous pose la question parce que Paris est en tête du championnat.
Ouais.
Et
vous avez terminé 8e en perdant 10 matchs sur 20. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui s'est rompu juste après.
Je suis pas sûr que ce soit ce match qui ait fait que on a aussi le problème de voilà ce match parce qu'il enchaîne sur le match du Bayern, c'est ça non? Le Bayern qui est juste avant où on prend 5-1 et là
avec Revaux qui se
et là bon bah forcément on était marqué par ce match et en plus on enchaîne derrière avec Marseille. Vu le scénario,
en tout cas, vous avez coulé.
Comme ça, voilà. On a été fragilisé. Maintenant, ça ne nous a pas empêché de gagner les deux coupes à la fin. Donc, quel est le problème en
avec
fait,
des finales extraordinaires, les deux.
Merci beaucoup, en tout cas, Eric, d'être venu nous donner votre vérité sur l'affaire qui continue.
La vérité, la seule vérité.
Elle ne finira jamais. Et chapeau pour l'état d'esprit d'Eric Rabezandratal à une zénitude qui est à enseigner sans doute dans les écoles.
Alors, 22 ans après, il peut se calmer quand même.
Non, ça va.
Voilà, c'était Canal Football Classique, le podcast de Canal+, consacré aux grands événements qui ont écrit l'histoire du foot. Pour découvrir les prochains épisodes, à revivre de grandes émotions du ballon rond, rendez-vous sur MyCanal et toutes les applications de podcast. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.